Au physique, Isidore était un homme âgé de 37 ans, grand et gros, qui transpirait facilement et dont la tête ressemblait à celle d'un hydrocéphale. Cette tête énorme, couverte de cheveux châtains et coupés ras, se rattachait au col par un rouleau de chair qui doublait le collet de son habit. Il avait des bras d'Hercule, des mains dignes de Domitien, un ventre que sa sobriété contenait au majestueux, selon le mot de Brillat Savarin. Sa figure tenait beaucoup de celle de l'empereur Alexandre. Le type tartare se retrouvait dans ses petits yeux, dans son nez aplati, relevé du bout, dans sa bouche à lèvres froides et dans son menton court. Le front était bas et étroit. Quoique d'un tempérament lymphatique, le dévot Isidore s'abandonnait à une excessive passion conjugale que le temps n'altérait point. Malgré sa ressemblance avec le bel empereur de Russie et le terrible Domitien, Isidore était tout simplement un bureaucrate peu capable comme chef de bureau, mais routinièrement formé au travail et qui cachait une nullité flasque sous une enveloppe si épaisse qu'aucun scalpel ne pouvait la mettre à nu. Ses fortes études, pendant lesquelles il déploya la patience et la sagesse d'un bœuf, sa tête carrée, avaient trompé ses parents qui le crurent un homme extraordinaire. Méticuleux et pédant, diseur et tracassier, l'effroi de ses employés auxquels il faisait de continuelles observations, il exigeait les points et les virgules, accomplissait avec rigueur les règlements et se montrait si terriblement exact que nul à son bureau ne manquait à s'y trouver avant lui. Baudoyer portait un habit bleu barbeau à boutons jaunes, un gilet chamois, un pantalon gris et une cravate de couleur. Il avait de larges pieds mal chaussés. La chaîne de sa montre était ornée d'un énorme paquet de vieilles breloques, parmi lesquelles il conservait en 1824 les graines d'Amérique à la mode en l'an 7. Au sein de cette famille qui se maintenait par la force des liens religieux, par la rigueur de ses mœurs, par une pensée unique, celle de l'avarice qui devient alors comme une boussole, Élisabeth était forcée de se parler à elle-même au lieu de communiquer ses idées, car elle se sentait sans père qui la comprisse. Quoique les faits l'eussent contrainte à juger son mari, la dévote soutenait de son mieux l'opinion favorable à M. Baudoyer. Elle lui témoignait un profond respect, honorant lui le père de sa fille, son mari, le pouvoir temporel, disait le vicaire de Saint-Paul. Aussi aurait-elle regardé comme un péché mortel de faire un seul geste, de lancer un seul coup d'œil, de dire une seule parole qui eût pu révéler à un étranger sa véritable opinion sur l'imbécile Baudoyer. Elle professait même une obéissance passive pour toutes ses volontés. Tous les bruits de la vie arrivaient à son oreille, elle les recueillait, les comparait pour elle seule et jugeait si sainement des choses et des hommes qu'au moment où cette histoire commence, elle était l'oracle secret des deux fonctionnaires, insensiblement arrivés tous deux à ne rien faire sans la consulter. Le père Saillard disait naïvement « Est-elle futeste, Élisabeth ?» Mais Baudoyer, trop sot pour ne pas être gonflé par la fausse réputation dont il jouissait dans le quartier Saint-Antoine, niait l'esprit de sa femme tout en le mettant à profit. Élisabeth avait deviné que son oncle Bidault, dit Gigonnet, devait être riche et manier des sommes énormes. Éclairée par l'intérêt, elle connaissait M. Deslupeaux mieux que le connaissait le ministre. En se trouvant mariée à un imbécile, elle pensait bien que la vie aurait pu aller autrement pour elle, mais elle soupçonnait le mieux sans vouloir le connaître. Toutes ses affections douces trouvaient un aliment dans son amour pour sa fille, à qui elle évitait les peines qu'elle avait supportées dans son enfance, et elle se croyait ainsi quitte envers le monde des sentiments. Pour sa fille seule, elle avait décidé son père à l'acte exorbitant de son association avec Falex. Falex avait été présenté chez les Saillard par le vieux Bidault qui lui prêtait de l'argent sur des marchandises. Falex trouvait son vieux pays trop cher, il s'était plaint avec candeur devant les Saillard de ce que Gigonnet prenait 18% à un Auvergnat. La vieille madame Saillard avait osé blâmer son oncle qui répondit « C'est bien parce qu'il est Auvergnat que je ne lui prends que 18%. » Falex, âgé de 28 ans, ayant fait une découverte et la communiquant à Saillard, paraissait avoir le cœur sur la main, expression du vocabulaire Saillard, et semblait promis à une grande fortune. Élisabeth conçut aussitôt de le mitonner pour sa fille et de former elle-même son gendre, calculant ainsi à 7 ans de distance. Martin Falex rendit d'incroyables respects à Madame Baudoyer, à laquelle il reconnut un esprit supérieur. Eût-il plus tard des millions, il devait toujours appartenir à cette maison où il trouvait une famille. La petite Baudoyer était déjà stylée à lui apporter gentiment à boire et à placer son chapeau. Au moment où M. Saillard rentra du ministère, le Boston allait son train. Élisabeth conseillait Falex, Mme Saillard tricotait au coin du feu en regardant le jeu du vicaire de Saint-Paul, M. Baudoyer, immobile comme un terme, employait son intelligence à calculer où étaient les cartes et faisait face à Mitral, venu de l'île Adam pour les fêtes de Noël. Personne ne se dérangea pour le caissier qui se promena pendant quelques instants dans le salon en montrant sa grosse face crispée par une méditation insolite. « Il est toujours comme ça quand il dîne chez le ministre, ce qui n'arrive heureusement que deux fois par an, dit Madame Saillard, car il me l'exterminerait. » Saillard n'était point fait pour être dans le gouvernement. « Ah ça, j'espère, Saillard, lui dit-elle à haute voix, que tu ne vas pas garder ici ta culotte de soie et ton habit de drap d'Elbeuf. Va donc quitter tout cela. » « Ne l'use pas ici pour rien, ma mère. »« Ton père a quelque chose, » dit Baudoyer à sa femme, quand le caissier fut dans sa chambre à se déshabiller sans feu. « Peut-être M. de la Billardière est-il mort, » dit simplement Élisabeth, « et comme il désire que tu le remplaces, ça le tracasse. »« Si je puis vous être utile à quelque chose, » dit en s'inclinant le vicaire de Saint-Paul, « usez de moi. J'ai l'honneur d'être connu de Madame la Dauphine. » Nous sommes dans un temps où il faut donner les emplois à des gens dévoués et dont les principes religieux soient inébranlables. Tiens, dit Falex, faut donc des protections aux gens de mérite pour arriver dans vos états. J'ai bien fait de me faire fondeur, la pratique sait dénicher les choses bien fabriquées. Monsieur, répondit Baudoyer, le gouvernement est le gouvernement. Ne l'attaquez jamais ici. En effet, dit le vicaire, vous parlez là comme le constitutionnel. « Le constitutionnel ne dit pas autre chose, » reprit Baudoyer, qui ne le lisait jamais. Le caissier croyait son gendre aussi supérieur en talent à Rabourdin qu'il croyait Dieu au-dessus de Saint-Crépin, disait-il, mais le bonhomme souhaitait cet avancement avec naïveté. Mû par le sentiment qui porte tous les employés à monter en grade, passion violente, irréfléchie, brutale, il voulait le succès comme il voulait la croix de la Légion d'honneur, sans rien faire contre sa conscience et par la seule force du mérite. Selon lui, un homme qui avait eu la patience d'être assis pendant 25 ans dans un bureau, derrière un grillage, s'était tué pour la patrie et avait bien mérité la croix. Pour servir son gendre, il n'avait pas inventé autre chose que de glisser une phrase à la femme de son excellence en lui apportant le traitement du mois. « Eh bien, Saillard, tu as l'air d'avoir perdu tous tes parents. Parle-nous donc, mon fils. Dis-nous donc quelque chose, » lui cria sa femme quand il rentra. Saillard tourna sur ses talons après avoir fait un signe à sa fille pour se défendre de parler politique devant les étrangers. Quand M. Mitral et le vicaire furent partis, Saillard recula la table, se mit dans un fauteuil et se posa comme il se posait quand il avait un cancan du bureau à répéter, mouvement semblable aux trois coups frappés sur le théâtre à la Comédie-Française. Après avoir recommandé le plus profond secret à sa femme, à son gendre et à sa fille, car, quelque mince que fût le cancan, leur place, selon lui, dépendait toujours de leur discrétion, il leur raconta cette incompréhensible énigme de la démission d'un député, de l'envie bien légitime du secrétaire général d'être nommé à sa place, de la secrète opposition du ministère au vœu d'un de ses plus fermes soutiens, d'un de ses zélés serviteurs, puis l'affaire de l'âge et du sang. Ce fut une avalanche de suppositions noyées dans les raisonnements des deux employés qui se renvoyèrent l'un à l'autre des tartines de bêtises. Élisabeth, elle, fit trois questions. « Si M. Deslupeaux est pour nous, M. Baudoyer sera-t-il sûrement nommé ?»«
Tiens, parbleu !» s'écria le caissier.
« En 1814, mon oncle Bidault et M. Gosbeck, son ami, l'ont obligé, pensa-t-elle. A-t-il encore des dettes ?»«
Oui, » fit le caissier en appuyant par un sifflement piteux et prolongé sur la dernière voyelle. « Il y a eu des oppositions sur le traitement, mais elles ont été levées par ordre supérieur, un mandat à vue. »«
Où donc est sa terre, Deslupeaux ?»
« Tiens, parbleu, dans le pays de ton grand-père et de ton grand-oncle, Bidault, de Falex, pas loin de l'arrondissement du député qui descend la garde. »
Quand son colosse de mari fut couché, Élisabeth se pencha sur lui et, quoiqu'il eût taxé ses questions de lubie, « Mon ami, dit-elle, peut-être auras-tu la place de monsieur de la Billardière. »«
Te voilà encore avec tes imaginations, » dit Baudoyer.
« Laisse donc monsieur Gaudron parler à la dauphine et ne te mêle pas des bureaux. »
À 11 heures, au moment où tout était calme à la place royale, M. Deslupeaux quittait l'opéra pour venir rue du Faux. Ce mercredi fut un des plus brillants de Mme Rabourdin. plusieurs de ses habitués revinrent du théâtre et augmentèrent les groupes formés dans ses salons et où se remarquaient plusieurs célébrités. Canalis, le poète, le peintre Schinner, le docteur Bianchon, Lucien de Rubempré, Octave de Camps, le comte de Granville, le vicomte de Fontaine, Dubruel, le vaudevilliste, Andoche Finot, le journaliste, Derville, une des plus fortes têtes du palais, le baron du Châtelet, député, Dutillet, le banquier, des jeunes gens élégants comme Paul de Manerville et le jeune comte d'Esgrignon. Célestine servait le thé quand le secrétaire général entra. Sa toilette lui allait bien ce soir-là. Elle avait une robe de velours noir sans ornement, une écharpe de gaze noire, les cheveux bien lissés relevés par une natte ronde et de chaque côté les boucles tombant à l'anglaise. Ce qui distinguait cette femme était le laisser-aller italien de l'artiste, une facile compréhension de toutes choses et la grâce avec laquelle elle souhaitait la bienvenue au moindre désir de ses amis. La nature lui avait donné une taille svelte pour se tourner lestement au premier mot d'interrogation. Des yeux noirs fendus à l'oriental et inclinés comme ceux des chinoises pour voir de côté, elle savait ménager sa voix insinuante et douce de manière à répandre un charme caressant sur toute parole, même celle jetée au hasard. Elle avait de ces pieds que l'on ne voit que dans les portraits où les peintres mentent à leur aise en chaussant leur modèle, seule flatterie qui ne compromette pas l'anatomie. Son teint un peu jaune au jour, comme est celui des brunes, jetait un vif éclat aux lumières qui faisaient briller ses cheveux et ses yeux noirs. Enfin, ses formes minces et découpées rappelaient à l'artiste celles de la Vénus du Moyen-Âge trouvée par Jean Goujon, l'illustre statuaire de Diane de Poitiers. Des Lupeaulx s'arrêta sur la porte en s'appuyant l'épaule au chambranle. Cet espion des idées ne se refusa pas au plaisir d'espionner un sentiment, car cette femme l'intéressait beaucoup plus qu'aucune de celles auxquelles il s'était attaché. Des Lupeaulx arrivait à l'âge où les hommes ont des prétentions excessives auprès des femmes. Les premiers cheveux blancs amènent les dernières passions, les plus violentes parce qu'elles sont à cheval sur une puissance qui finit et sur une faiblesse qui commence. 40 ans est l'âge des folies, l'âge où l'homme veut être aimé pour lui car alors son amour ne se soutient plus par lui-même, comme au premier jour de la vie, où l'on peut être heureux en aimant à tort et à travers, à la façon de chérubin. À 40 ans, on veut tout, tant on craint de ne rien obtenir, tandis qu'à 25 ans, on a tant de choses qu'on ne sait rien vouloir. À 25 ans, on marche avec tant de force qu'on les dissipe impunément, mais à 40 ans, on prend l'abus pour la puissance. Les pensées qui saisirent en ce moment des Lupeaulx furent sans doute mélancoliques. Les nerfs de ce vieux beau se détendirent, le sourire agréable qui lui servait de physionomie et lui faisait comme un masque en crispant sa figure se dissipa. L'homme vrai parut, il fut horrible. Rabourdin l'aperçut et se dit « Que lui est-il arrivé? Est-il en disgrâce ?» Le secrétaire général se souvenait seulement d'avoir été trop promptement quitté naguère par la jolie madame Colville dont les intentions furent exactement celles de Célestine. Rabourdin surprit ce faux homme d'état, les yeux attachés sur sa femme, et il enregistra ce regard dans sa mémoire. Rabourdin était un observateur trop perspicace pour ne pas connaître des Lupeaulx à fond. Il le méprisait profondément, mais comme les hommes très occupés, ses sentiments n'arrivaient pas à la surface. L'emportement que cause un travail aimé équivaut à la plus habile dissimulation. Les opinions de Rabourdin étaient donc lettre close pour des Lupeaulx. Le chef de bureau voyait avec peine ce parvenu politique chez lui, mais il n'avait pas voulu contrarier sa femme. En ce moment, il causait confidentiellement avec un surnuméraire qui devait jouer un rôle dans l'intrigue engendrée par la mort certaine de la milliardaire. Il épia donc d'un regard fort distrait Célestine et des Lupeaulx. Ici peut-être doit-on expliquer, autant pour les étrangers que pour nos neveux, ce qu'est à Paris un surnuméraire. Un surnuméraire est à l'administration ce que l'enfant de chœur est à l'église, ce que l'enfant de troupe est au régiment, ce que le rat est au théâtre, quelque chose de naïf, de candide, un être aveuglé par les illusions. Sans l'illusion, où irions-nous? Elle donne la puissance de manger la vache enragée des arts, de dévorer les commencements de toute science en nous donnant la croyance. L'illusion est une foi démesurée. Or, il a foi en l'administration, le surnuméraire. Il ne la suppose pas froide, atroce, dure comme elle est. Il n'y a que deux genres de surnuméraires, les surnuméraires riches et les surnuméraires pauvres. Le surnuméraire pauvre est riche d'espérance et a besoin d'une place, le surnuméraire riche est pauvre d'esprit et n'a besoin de rien. Une famille riche n'est pas assez niaise pour mettre un homme d'esprit dans l'administration.
Le surnuméraire riche est confié à un employé supérieur ou placé près du directeur général qui l'initie à ce que Bill Bokeh, ce profond philosophe, appellerait la haute comédie de l'administration. On lui adoucit les horreurs du stage jusqu'à ce qu'il soit nommé à quelque emploi. Le surnuméraire riche n'effraie jamais les bureaux. Les employés savent qu'il ne les menace point. Le surnuméraire riche ne vise que les hauts emplois de l'administration. Vers cette époque, bien des familles se disaient « Que ferons-nous de nos enfants ?» L'armée n'offrait point de chances de fortune, les carrières spéciales, le génie civil, la marine, les mines, le génie militaire, le professorat étaient barricadés par des règlements ou défendus par des concours. Tandis que le mouvement rotatoire, qui métamorphose les employés en préfets, sous-préfets, directeurs des contributions, receveurs, etc., en bonshommes de lanterne magique, n'est soumis à aucune loi, à aucun stage. Par cette lacune débouchèrent les surnuméraires à cabriolets, à beaux habits, à moustaches et impertinents comme des parvenus. Le journalisme persécutait assez le surnuméraire riche, toujours cousin, neveu, parent de quelques ministres, de quelques députés, d'un père très influent, mais les employés complices de ce surnuméraire en recherchaient la protection. Le surnuméraire pauvre, le vrai, le seul surnuméraire, est presque toujours le fils de quelques veuves d'employés qui vit sur une maigre pension et se tue à nourrir son fils jusqu'à ce qu'il arrive à la place d'expéditionnaire et qui meure le laissant près du bâton de maréchal quelques places de commis-rédacteur, de commis d'ordre ou peut-être de sous-chef. Toujours logé dans un quartier où les loyers ne sont pas chers, ce surnuméraire part de bonne heure. Pour lui, l'état du ciel est la seule question d'Orient. Venir à pied, ne pas se crotter, ménager ses habits, calculer le temps qu'une troupe forte averse peut lui prendre s'il est forcé de se mettre à l'abri, combien de préoccupations. Les trottoirs dans les rues, le dallage des boulevards et des quais furent des bienfaits pour lui. Quand, par des causes bizarres, vous êtes dans Paris à 7h30 ou 8h du matin en hiver, que vous voyez, par un froid piquant, par une pluie, par un mauvais temps quelconque, poindre un craintif et pâle jeune homme sans cigare, faites attention à ses poches. Vous y verrez la configuration d'une flûte que sa mère lui a donnée, afin qu'il puisse sans danger pour son estomac franchir les 9 heures qui séparent son déjeuner de son dîner. La candeur des surnuméraires dure peu d'ailleurs. Un jeune homme, éclairé par les lueurs de la vie parisienne, a bientôt mesuré la distance effroyable qui se trouve entre un sous-chef et lui, cette distance qu'aucun mathématicien, ni Archimède, ni Newton, ni Pascal, ni Leibniz, ni Kepler, ni Laplace n'a pu évaluer, et qui existe entre 0 et le chiffre 1, entre une gratification problématique et un traitement. Le surnuméraire aperçoit donc assez promptement les impossibilités de la carrière. Il entend parler des passe-droits par des employés qui les expliquent. Il découvre les intrigues des bureaux. Il voit les moyens exceptionnels par lesquels ses supérieurs sont parvenus. L'un a épousé une jeune personne qui a fait une faute, l'autre la fille naturelle d'un ministre. Celui-ci a endossé une grave responsabilité. Celui-là, plein de talent, a risqué sa santé dans des travaux forcés. Il avait une persévérance de taupe et l'on ne se sent pas toujours capable de tels prodiges. Tout se sait dans les bureaux. L'homme incapable a une femme de tête qui l'a poussé par là, qui l'a fait nommer député. S'il n'a pas de talent dans les bureaux, il intrigaille à la chambre. Tel a pour ami intime de sa femme un homme d'État, tel est le commanditeur d'un journaliste puissant. Dès lors, le surnuméraire dégoûté donne sa démission. Les 3/4 des surnuméraires quittent l'administration sans avoir été employés. Il n'y reste que les jeunes gens entêtés et les imbéciles qui se disent « J'y suis depuis 3 ans, je finirai par avoir une place » ou les jeunes gens qui se sentent une vocation. Évidemment, le surnumérariat est pour l'administration ce que le noviciat est dans les ordres religieux, une épreuve. Cette épreuve est rude. L'État y découvre ceux qui peuvent supporter la faim, la soif et l'indigence sans y succomber, le travail sans s'en dégoûter, et dont le tempérament acceptera l'horrible existence ou, si vous voulez, la maladie des bureaux. De ce point de vue, le surnumérariat, loin d'être une infâme spéculation du gouvernement pour obtenir du travail gratis, serait une institution bienfaisante. Le jeune homme qui parlait à Rabourdin était un surnuméraire pauvre nommé Sébastien de la Roche, venu sur la pointe de ses bottes de la rue du Roi Doré au Marais, sans avoir attrapé la moindre éclaboussure. Il disait « maman » et n'osait lever les yeux sur Madame Rabourdin, dont la maison lui faisait l'effet d'un Louvre.
Il montrait peu ses gants nettoyés à la gomme élastique. Sa pauvre mère lui avait mis 100 sous dans sa poche au cas où il serait absolument nécessaire de jouer, en lui recommandant de ne rien prendre, de rester debout et de bien faire attention à ne pas pousser quelques lampes, quelques jolies bagatelles étalées sur une étagère. Sa mise était le noir le plus strict. Sa figure blonde, ses yeux d'une belle teinte verte à reflets dorés étaient en harmonie avec une belle chevelure d'un ton chaud. Le pauvre enfant regardait parfois Madame Rabourdin à la dérobée en se disant « Quelle belle femme !» À son retour, il devait penser à cette fée jusqu'au moment où le sommeil lui clorerait la paupière. Rabourdin avait vu dans Sébastien une vocation, et comme il prenait le surnuméraria au sérieux, il s'était intéressé vivement à ce pauvre enfant. Il avait d'ailleurs deviné la misère qui régnait dans le ménage d'une pauvre veuve pensionnée à 700 francs et dont le fils, sorti du collège depuis peu, avait nécessairement absorbé bien des économies. Aussi était-il tout paternel pour ce pauvre surnuméraire. Il se battait souvent au conseil afin de lui obtenir une gratification, et quelquefois il la prenait sur la sienne propre quand la discussion devenait trop ardente entre les distributeurs des grâces et lui. Puis il accablait Sébastien de travail, il le formait, il lui faisait remplir la place de Dubruel, le faiseur de pièces de théâtre connu dans la littérature dramatique et sur les affiches sous le nom de Curcy, lequel laissait à Sébastien 100 écus sur son traitement. Rabourdin, dans l'esprit de Madame de Laroche et de son fils, était à la fois un grand homme, un tyran, un ange. À lui se rattachaient toutes leurs espérances. Sébastien avait les yeux toujours fixés sur le moment où il devait passer employé. Ah, le jour où ils émargent est une belle journée pour les surnuméraires. Tous, ils ont longtemps manié l'argent de leur premier mois, et ils ne le donnent pas tout entier à leur mère. Vénus sourit toujours à ces prémices de la caisse ministérielle. Cette espérance ne pouvait être réalisée pour Sébastien que par M. Rabourdin, son seul protecteur, aussi son dévouement à son chef était-il sans borne. Le surnuméraire dînait deux fois par mois rue du Faux, mais en famille et amené par Rabourdin. Madame ne le priait jamais que pour les bals où il lui fallait des danseurs. Le cœur du pauvre surnuméraire battait quand il voyait l'imposant des lupeaux qu'une voiture ministérielle emportait souvent à 4h30 alors qu'il déployait son parapluie sous la porte du ministère pour s'en aller au marais. Le secrétaire général de qui son sort dépendait, qui d'un mot pouvait lui donner une place de 1200 francs, oui, 1200 francs était toute son ambition à ce prix, sa mère et lui pouvaient être heureux. Eh bien, ce secrétaire général ne le connaissait pas. À peine des lupeaux savait-il qu'il existait un Sébastien de Laroche. Et si le fils de la billardaire, le surnuméraire riche du bureau de Baudoyer, se trouvait aussi sous la porte, des lupeaux ne manquaient jamais à le saluer par un coup de tête amical. Monsieur Benjamin de la billardaire était fils du cousin d'un ministre. En ce moment, Rabourdin grondait ce pauvre petit Sébastien, le seul qui fût dans la confidence entière de ses immenses travaux. Le surnuméraire copiait et recopiait le fameux mémoire composé de 150 feuillets de grand papier tellière, outre les tableaux à l'appui, les résumés qui tenaient sur une simple feuille, les calculs avec accolade, titres à l'anglaise et sous-titres en ronde. Animé par sa participation mécanique à cette grande idée, l'enfant de 20 ans refaisait un tableau pour un simple grattage. Il mettait sa gloire à peindre les écritures, éléments d'une si noble entreprise. Sébastien avait commis l'imprudence d'emporter au bureau la minute du travail le plus dangereux afin d'en achever la copie. C'était un état général des employés des administrations centrales de tous les ministères à Paris, avec des indications sur leurs fortunes présentes et à venir et sur leurs entreprises personnelles en dehors de leur emploi. À Paris, tout employé qui n'a pas, comme Rabourdin, une patriotique ambition ou quelques capacités supérieures, joint les fruits d'une industrie aux produits de sa place afin de pouvoir exister. Il fait comme M. Saillard, il s'intéresse à un commerce en bâillant des fonds et le soir, il tient les livres de son associé. Beaucoup d'employés sont mariés à des lingères, à des débitantes de tabac, à des directrices de bureaux de loterie ou de cabinets de lecture. Quelques-uns, comme le mari de Madame Colville, l'antagoniste de Célestine, sont placés à l'orchestre d'un théâtre. D'autres, comme Dubruel, fabriquent des vaudevilles, des opéras comiques, des mélodrames ou dirigent des spectacles. En ce genre, on peut citer Messieurs Séverin, Pixrécourt, Planard, etc. Dans leur temps, Pigault Lebrun, Pis, Duviquet avaient des places. Le premier libraire de M. Scribe fut un employé au Trésor. Outre ces renseignements, l'état fait par Rabourdin contenait un examen des capacités morales et des facultés physiques nécessaires pour bien connaître les gens chez lesquels se rencontraient l'intelligence, l'aptitude au travail et la santé, trois conditions indispensables dans les hommes qui devaient supporter le fardeau des affaires publiques, qui devaient tout faire
vite et bien. Mais ce beau travail, fruit de 10 années d'expérience, d'une longue connaissance des hommes et des choses, obtenu par des liaisons avec les principaux fonctionnaires des différents ministères, sentait l'espionnage et la police pour qui ne comprenait pas à quoi il se rattachait. Une seule feuille lue, M. Rabourdin pouvait être perdu. Admirant sans restriction son chef et ignorant encore les méchancetés de la bureaucratie, Sébastien avait les malheurs de la naïveté, comme il en avait toutes les grâces. Ainsi, quoique déjà grondé pour avoir emporté ce travail, eut-il le courage d'avouer sa faute en entier. Il avait serré minutes et copies dans un carton où personne ne pouvait les trouver, mais en devinant l'importance de sa faute, quelques larmes roulèrent dans ses yeux. « Allons, monsieur, lui dit avec bonté Rabourdin, plus d'imprudence, mais ne vous désolez pas. Rendez-vous demain au bureau de très bonne heure. Voici la clé d'une caisse qui est dans mon secrétaire à cylindre, elle est fermée par une serrure à combinaison. Vous l'ouvrirez en écrivant le mot « ciel ». Vous y serrerez copie et minute. » Ce trait de confiance sécha les larmes du gentil surnuméraire que son chef voulut contraindre à prendre une tasse de thé et des gâteaux. « Maman me défend de prendre du thé à cause de ma poitrine, » dit Sébastien. « Eh bien, cher enfant, » reprit l'imposante Madame Rabourdin qui voulait faire acte public de bonté, « voici des sandwichs et de la crème. Venez là près de moi. » Elle força Sébastien à s'asseoir près d'elle à table, et le cœur du pauvre petit lui battit jusque dans la gorge en sentant la robe de cette divinité effleurer son habit. En ce moment, la belle Rabourdin aperçut M. Deslupeaux, lui sourit, et au lieu d'attendre qu'il vînt à elle, alla vers lui. « Pourquoi restez-vous là comme si vous boudiez ? » dit-elle. « Je ne boudais pas, reprit-il, mais en venant vous annoncer une bonne nouvelle, je ne pouvais m'empêcher de penser que vous seriez encore plus sévère pour moi. Je me voyais dans 6 mois d'ici presque étranger pour vous. Oui, vous avez trop d'esprit et moi trop d'expérience, de rouerie si vous voulez, pour que nous nous trompions l'un et l'autre. » Votre but est atteint sans qu'il vous en coûte autre chose que des sourires et des paroles gracieuses. « Nous tromper, que voulez-vous dire ? » s'écria-t-elle, d'un air en apparence piqué. « Oui, monsieur de la Billardère va ce soir encore plus mal qu'hier, et d'après ce que m'a dit le ministre, votre mari sera nommé chef de division. » Il lui raconta ce qu'il appelait sa scène chez le ministre, la jalousie de la comtesse et ce qu'elle avait dit à propos de l'invitation qu'il ménageait à Madame Rabourdin. « Monsieur Deslupeaux, » répondit avec dignité Madame Rabourdin, « permettez-moi de vous dire que mon mari est le plus ancien chef de bureau et le plus capable, que la nomination de ce vieux Labillardaire fut un passe-droit qui a mis les bureaux en rumeur, que mon mari fait l'intérim depuis 1 an, qu'ainsi nous n'avons ni concurrent ni rival. Cela est vrai. Eh bien, reprit-elle en souriant et montrant les plus belles dents du monde, l'amitié que j'ai pour vous peut-elle être entachée par une pensée d'intérêt ? M'en croyez-vous capable ? Deslupeaux fit un geste de dénégation admirative. « Ah, reprit-elle, le cœur des femmes sera toujours un secret pour les plus habiles d'entre vous. Oui, je vous ai vu venir ici avec le plus grand plaisir, et il y avait, au fond de mon plaisir, une idée intéressée. Ah, vous avez, lui dit-elle à l'oreille, un avenir sans bornes. Vous serez député puis ministre. Quel plaisir pour un ambitieux d'entendre dérouler ces paroles dans le tuyau de son oreille par la jolie voix d'une jolie femme. Oh, je vous connais mieux que vous ne vous connaissez vous-même. » Rabourdin est un homme qui vous sera d'une immense utilité dans votre carrière. Il fera le travail quand vous serez à la Chambre. De même que vous rêvez le ministère, moi, je veux, pour Rabourdin, le Conseil d'État et une direction générale. Je me suis donc mis en tête de réunir 2 hommes qui ne se nuiront jamais l'un à l'autre et qui peuvent se servir puissamment. N'est-ce pas là le rôle d'une femme ? Amis, vous marcherez plus vite l'un et l'autre, et il est temps pour tous deux de voguer. « J'ai brûlé mes vaisseaux, » ajouta-t-elle en souriant, « vous n'êtes pas aussi franc avec moi que je le suis avec vous. »« Vous ne voulez pas m'écouter, » dit-il d'un air mélancolique, malgré le contentement intérieur et profond que lui causait Madame Rabourdin. « Que me font vos promotions futures si vous me destituez ici ?»« Avant de vous écouter, » dit-elle, avec sa vivacité parisienne, « il faudrait pouvoir nous entendre. » Et elle laissa le vieux fat pour aller causer avec Madame de Chessel, une comtesse de province qui faisait mine de partir. « Cette femme est extraordinaire, » se dit Deslupeaux, « je ne me reconnais plus auprès d'elle. » Et en effet, ce roué qui, 6 ans auparavant, entretenait un rat, qui, grâce à sa place, se faisait un sérail avec les jolies femmes des employés, qui vivaient dans le monde des journalistes et des actrices, fut charmant pendant toute la soirée pour Célestine et quitta le salon le dernier. « Enfin, » pensa Madame Rabourdin en se déshabillant, « nous avons la place. 12 000 francs par an, les gratifications et le revenu de notre ferme des Grageux, tout cela fera 20 000 francs. Ce n'est pas l'aisance, mais ce n'est plus la misère. » Célestine s'endormit en pensant à ses dettes en supputant qu'en 3 ans, par une retenue annuelle de 6 000 francs, elle pourrait les acquitter. Elle était bien loin d'imaginer qu'une femme qui n'avait jamais mis le pied dans un salon, qu'une petite bourgeoise criarde et intéressée, dévote et enterrée au marais, sans appui ni connaissance, songeait à emporter d'assaut la place à laquelle elle asseyait son Rabourdin par avance. Madame Rabourdin eût méprisé Madame Baudoyer si elle avait su l'avoir pour antagoniste, car elle ignorait la puissance de la petitesse, cette force du ver qui ronge un ormeau en faisant le tour sous l'écorce. S'il était possible de se servir en littérature du microscope des Leveneck, des Malpighi, des Aspailles, ce qu'a tenté Hoffmann le Berlinois, et si l'on grossissait et dessinait ces tarés qui ont mis la Hollande à 2 doigts de sa perte en rongeant ses digues, peut-être ferait-on voir des figures à peu de choses près semblables à celles des sieurs Gigonnet, Mitral, Baudoyer, Saillard, Gaudron, Falex, Transon, Godard et compagnie, tarés qui d'ailleurs ont montré leur puissance dans la 30e année de ce siècle. Aussi, voici venir le moment de montrer les tarés qui grouillaient dans les bureaux où se sont passées les principales scènes de cette étude.